Jésus entre dans Jérusalem, la grande ville, centrale, reconnue, respectée. On imagine sans peine les trésors et l'art qui s'y côtoient, qui y circulent, qui s'y développent, les richesses à découvrir sous le soleil, les beautés architecturales, les diverses cultures qui se côtoient, qui rivalisent de brillance et de progrès. Jérusalem abrite le temple où des milliers de gens se rendent chaque année en pèlerinage pour adorer Dieu. Ah oui, Jérusalem, cette Jérusalem-là, elle peut faire rêver. Et pourtant, à Jérusalem, l'occupant romain est le maître. Les patrouilles de soldats sont omniprésentes. L'ordre est maintenu par la force si nécessaire. La fameuse Pax Romana, la paix du travail, la paix militaire, quoi. Facile d'imaginer les abus perpétrés par les Romains, maîtres du jeu. Sans compter le racisme, la discrimination sociale et l'exclusion, bien présents au détour des ruelles. Il y a le pouvoir romain, le pouvoir de l'argent, et aussi le pouvoir des chefs religieux du peuple, qui n'hésite pas parfois à devenir ce que nous appelons des collabos. Description assez actuelle, en somme. Vous ne trouvez pas ? À l'époque, tout ce petit monde se maintient dans une sorte d'équilibre, tendu et douloureux, mais comme la vie avance. La grande Jérusalem est le miroir de l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur et ce qu'elle a de pire, comme toutes les grandes villes. Ce jour-là, Jésus arrive pour entrer dans Jérusalem. Pour lui, le temps est venu. Il entre, et son arrivée fait l'effet d'un très gros grain de sable dans les rouages, déjà pas si bien huilés. À la seconde où l'âne pose son premier sabot sur les rameaux et les vêtements qui jonchent le sol, Jérusalem vacille. Les croyants sont fous de joie. Ils pensent que le nouveau roi est enfin arrivé. Mais Jésus ne vient pas pour être un roi à la mode humaine. Les Romains sont certainement ébranlés. Jésus ne semble pas dangereux, mais il incite cette populace déjà tellement insoumise à manifester et à mettre du désordre dans les rues. Les chefs religieux sont très fâchés. Cet énergumène aux pieds nus vient les narguer et ébranler leur pouvoir jusqu'au cœur de leur périmètre d'influence, leur fief. Les pauvres, les femmes, les esclaves et les exclus pour toutes sortes de raisons frémissent. Ils savent, au moins par le bouche à oreille, que ce Jésus est plutôt de leur côté. Pour les chefs, c'est l'horreur, l'envers de l'ordre établi. C'est une initiative déstabilisante qui leur fait perdre un bout le contrôle sur la situation, sur le peuple, qui, dans leur conception, leur est soumis et leur subordonné. Puis Jésus entre dans le temple, comme un propriétaire visite sa maison. Il regarde à droite, à gauche, et ce simple regard perturbe le train-train quotidien, les rituels et le commerce. Sa façon de regarder implique peut-être déjà qu'un événement se prépare, et nous savons que le lendemain, il ne se contentera pas de regarder. Depuis le bord jusqu'au centre, le temple, voilà Jérusalem, morceau de miroir de l'humanité qui se fendille en craquant. Nos grandes villes ne sont pas très différentes des villes de l'époque. Sans doute sont-elles moins attrayantes encore avec leurs zones grises de béton, leurs tours anonymes, leur bruit et leur pollution. Ou alors elles sont à taille plus humaine, comme la Neuville, et semblent plus préservées. Mais quelles qu'elles soient, elles sont de toute manière comme des morceaux de miroir. Elle reflète des parts de l'humanité, pour le meilleur et pour le pire, avec toute la palette de nuances. Et si Jésus entrait dans notre ville aujourd'hui? L'équilibre ambiant s'en trouverait terriblement dérangé, non? Et s'il arrivait dans les lieux de pouvoir actuels du monde, en train de sombrer dans la folie, l'autoritarisme, les extrêmes, la démesure de la noirceur, qu'est-ce que ça donnerait? Certains croyants seraient fous de joie et de soulagement. D'autres qui se disent croyants se réjouiraient sans doute qu'ils viennent rétablir une forme d'ordre chrétien qui ressemble fâcheusement à de l'exclusion, de la discrimination et de la violence au nom d'un Dieu dont je me demande presque quotidiennement s'il est le même que celui que j'espère pouvoir suivre. Jésus ne viendrait sans doute pas pour faire le monde à la manière humaine, ni celle des uns, ni celle des autres. Les dirigeants seraient de très ennuyés à fous furieux. Jésus inciterait les gens à transgresser les règles de l'économie et de l'argent, à bousculer un système qui ne fonctionne pas trop mal, à condition de pousser dans les marges les humains dérangeants. Les autorités d'Église seraient sans doute très fâchées. Ce sauveur aux pieds nus remettrait en cause leur pouvoir et leurs institutions bien enracinées. Et peut-être que les pauvres, les laissés pour compte, les exclus, pourraient enfin frémir de joie, sentant confusément que ce prince qui arrive sur le dos d'un âne, les pieds traînant dans la poussière, et de leur côté. Et si Jésus entrait dans notre blanche église comme un propriétaire visitant sa maison? Que nous dirait son regard? Par rapport à notre confort, à nos habitudes bien ancrées, à nos cantiques si vieux, à nos blocages devant une église ouverte à d'autres formes d'expression qu'à la sacro-sainte parole protestante. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher, y compris la mienne, hein, donc, d'accord? Ce regard impliquerait sans doute bien des dérangements. Des abords de la ville jusqu'à notre église, ou dans d'autres églises ailleurs, bien sûr. Le miroir se fendirait en craquant. Ma comparaison est hors de propos? C'est peut-être un peu incongru, je vous l'accorde. Mais souvent je me dis qu'il nous faudrait un choc pour nous réveiller, nous qui nous disons chrétiens. La secousse d'un regard d'amour si intense que nous retrouverions brusquement la mémoire de ce qu'est l'Évangile, bien plus dérangeant, bien plus exigeant que ce que nous faisons dans notre ville, comme en nous, comme dans chaque parcelle de notre monde, dans les pays riches ou aisés. C'est vrai, c'est chouette de chanter « Hosanna au plus haut des cieux », comme cette foule d'autrefois. J'ai plein de plaisir à le faire, chaque fois. Mais n'empêche, si nous préférons trop souvent extraire du message de Jésus-Christ ce qui nous arrange et laisser de côté les exigences énervantes et provocatrices, à quoi cela sert-il? Je nous le demande. Alors ce matin, en chantant la gloire de Dieu et l'entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem, ne jetons pas des rameaux sans nous engager. Investissons la ville au figuré. Osons créer des ponts entre Église et la ville. Entre les habitudes paroissiales et la vie sociale habituelle. Osons imaginer des réseaux dans ces rues où l'on se connaît souvent, bien sûr. Vraiment ? Tissons des solidarités au milieu de toutes ces relations qui n'en sont peut-être pas toujours. Abandonnons une part de nos craintes et de nos préjugés. Regardons nos frères et sœurs humains et accueillons-les tels qu'ils sont. Osons un miroir de l'humanité qui reflète en un seul morceau plein de facettes et de couleurs différentes, un bout de vivre ensemble. Ne nous croyons jamais arrivés au but, restons en marche. Adoptons l'idée que l'Évangile et son message visent à ouvrir, à dialoguer avec d'autres formes de spiritualité. Vous savez, je vous ai parlé de cette Jérusalem multiculturelle, belle, ou plein de nationalités. Moi, j'aime me représenter cette ville de Jérusalem d'avant, avec tous ces gens qui arrivaient à dos de chameau ou à pied de tous les recoins du monde et des déserts. Ça, ouais, ça fait rêver. N'oublions pas que celui qui a bousculé l'ordre du monde est allé jusqu'à la croix pour ne pas renoncer à l'amour. Nous ne sommes pas appelés à en faire autant. Mais au moins, allons un petit bout plus loin que nous-mêmes, de temps en temps, en cessant peut-être de batailler pour que les autres se rallient à nous. Sortons donc à leur rencontre, entrons dans la cité, nous aussi femmes et hommes comme les autres. Certes, on va le faire sans monture à longues oreilles, mais on peut oser la simplicité, la largesse de cœur et d'esprit, l'accueil de la rue et pas seulement celui du temple. Avec l'aide du souffle de Dieu, ainsi soit-il.